Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous, ne cherchez pas à régler votre application, vous êtes bien dans un rendez-vous jeu. Je suis Johan, je suis avec Thomas et Kassim. Patrick aussi est là, mais seulement dans nos cœurs. Ah, on va pouvoir faire un peu ce qu'on veut, on a volé les clés du studio et on va parler de jeux vidéo. Comment ça va Thomas ?
Écoute, ça va très bien, je suis très heureux d'être avec vous comme tous les ans.
Tu as eu un super été JV, est-ce que tu as kiffé cet été JV là ? Ou est-ce que t'es plutôt en mode, toi, t'es plutôt en mode de bof ?
Bah un peu bof finalement, hein. on va pas le refaire,
non.
Mais oui, des gros absents, et ceux qui étaient présents, ils étaient trop nombreux, donc ouais, c'était pas ouf.
Et Kassim est là aussi, et toi Kassim, alors comment ça va ?
Bah ça va très bien, non en fait je suis encore en train de tousser, je vais pas arrêter de me muter pendant cet épisode pour éviter de tousser dans le micro, mais ça va bien, et oui on va pas parler de l'été JV, c'est un peu le... Je découvre le sujet de l'épisode, mais c'est... oui, on va pas parler de l'été JV pour une fois.
Non, on va parler des différentes offres d'abonnement. Alors, on va balayer un peu tout ça. On va parler un peu de nos ressentis par rapport à tout ce qui est Game Pass, PlayStation Plus, etc. Comment est-ce que nous, on voit les choses, voilà, en tant que consommateur, est-ce qu'on a aimé ou pas? Et puis, on essaiera un peu de prendre un peu de hauteur après pour voir un petit peu, essayer d'analyser ça, quoi. Donc, si tout est OK, si vous êtes prêts, on y va.
Let's go.
Allez.
Allez, let's go.
Le mec qui met toujours l'énergie.
Générique.
C'est ça. Alors bon, déjà, je pense que l'énorme éléphant de ces trucs-là, c'est forcément Game Pass. Donc moi, j'aimerais commencer vraiment par Game Pass et vous poser la question, est-ce que vous êtes abonné, est-ce que vous avez déjà été abonné spécifiquement au Game Pass, Thomas ?
Alors, moi, je suis le dernier gamer sur Terre qui n'a jamais été abonné au Game Pass, en fait. Bon, déjà, je n'ai pas de console Xbox, même si je sais que ça existe sur PC, bien sûr. Mais sur PC, moi, je reste sur Steam et disons que les jeux... Enfin, bon, on en parlera, hein, mais moi, je suis pas un gros consommateur. L'abondance, tu vois, c'est pas quelque chose qui me parle vraiment. On en discutera peut-être après, mais tu vois, le PS Plus, qui est sorti là il y a quelques semaines, quand je navigue dans la sélection, je regarde ça et je m'en fous un petit peu finalement. C'est pas trop.
T'es abonné du coup ?
Oui, ouais, parce que pour le coup, j'étais abonné au PS Plus classique. Je l'étais parce que je joue sur Internet, donc j'en avais besoin. Et ça coûtait genre 30 balles pour compléter l'année, donc je me suis dit, allez, on essaye. Mais ouais, le Game Pass, non. Et y a quelques jeux quand même, hein, qui m'intéressent et qui sont passés dedans, mais ce sont des jeux, je sais que j'y rejouerai fréquemment. J'y joue pas forcément beaucoup, mais je vais y rejouer ponctuellement souvent, comme par exemple Back 4 Blood ou Age of Empires 4, qui d'ailleurs, il y a une grosse mise à jour là qui vient de sortir, donc tu vois, je vais y retourner dessus. Mais si je l'avais eu via le Game Pass, il aurait fallu que je sois abonné sur des années pour que... alors que bon, les jeux, je les ai, et voilà, je les ai, et je reste un peu old school peut-être à ce niveau-là, mais bon, c'est comme ça que moi je consomme mes jeux.
Alors, du coup, j'ai une question. Il y a Stray qui va arriver là, c'est un peu une des grosses sorties finalement du PlayStation Plus Extra en termes de, hein, parce que le jeu sort en même temps qu'il sort dans le commerce, il sort dans l'abonnement. Est-ce que du coup, tu comptes l'acheter ou est-ce que tu comptes y jouer via ton abonnement ?
Ça va être ça va être le premier cas de conscience du coup que j'ai un peu comme ça. Peut-être, en vrai, je vais y jouer, certainement via labo, et peut-être que s'il est super fou, ou au moins que j'ai bien aimé, il ouais, y a des chances que je l'achète quand même, ouais, clairement. Mais bon, c'est un cas de conscience, là je te dis ça, parce que c'est facile de dire des trucs bien, et peut-être que je le ferai pas, hein, mais j'y pense, ouais.
Et juste, comme il n'y a pas que le Game Pass et le PlayStation Plus, il y a aussi plein d'autres offres. Moi, je sais que tu as été abonné Apple Arcade au moins un petit moment. Oui. Ça a été quoi ton expérience dessus, toi?
Bah, Apple Arcade, j'ai été abonné principalement pour un jeu. C'était Fantasian. Et d'ailleurs, encore un truc, alors j'ai l'impression de faire du foreshadowing de fou, mais encore un truc, on reparlera peut-être plus tard, mais l'Apple Arcade, il a l'air de trouver un petit peu sa niche parce que bon, Fantasian, ça a été fait par Sakaguchi, l'ancien papa des Final Fantasy. Et donc, il avait fait ce RPG. Apple lui avait donné les clés pour faire un peu ce qu'il voulait. Donc, il a fait Fantasian, et qui était très cool d'ailleurs. Et dernièrement, il y a le nouveau jeu de Yu Suzuki, il me semble. C'est Air oui, Twister, je crois. Et ouais, mais bon, ouais, t'as l'impression qu'il retrouve un petit peu cette niche de vieux joueurs japonais. De vieux créateurs japonais, et bon, peut-être que ça va être leur truc à eux, mais bref, ça pour dire que le Game Pass, l'Apple Arcade,
ouais,
bah, j'y avais joué juste pour Fantasian, parce qu'après bah, le jeu mobile, moi en fait, ça me coupe quoi. Et Fantasian, j'aurais préféré le faire ailleurs, mais bon, c'était très cool, et sur iPad, c'était bien.
Et du coup, t'es arrivé au bout?
Alors Fantasian, au bout de la version 1, parce qu'il est sorti en deux bouts, ouais, Fantasian, ouais. Et la dernière est sortie il n'y a pas longtemps, et je me suis pas relancé pour faire la suite.
Ok, donc bah, même question, enfin même ensemble de questions pour Kassim. Toi c'est quoi tes relations avec ces différents trucs d'abonnement?
Alors moi je suis abonné à tout. Comment dire? Alors bon, j'ai commencé par le Game Pass, parce que du coup, forcément, bah, c'est le truc, comme Thomas l'a pas, justement, ça permettra un peu de varier. Et puis surtout, je voulais rebondir sur ce que disait Thomas à propos de Stray, où il disait que justement, il hésitait, il était sur son cas de conscience, et c'est quelque chose, moi, que effectivement, j'ai eu comme... que j'ai presque appris à faire. Donc je suis abonné au Game Pass depuis le lancement du Game Pass Ultimate, donc c'est le moment, en gros, où c'est arrivé sur PC. Parce que j'avais une Xbox One, mais j'avais la Xbox One magnétoscope, donc c'était un peu nul de jouer dessus. Moi, je suis un gros joueur PC, donc clairement, c'est par là que Microsoft a réussi à me choper. Malgré la qualité nauséabonde de leur application PC, je sais pas si on y reviendra, mais voilà, tout le monde est à peu près au courant que c'est une catastrophe, même si ça s'est un peu amélioré quand même depuis, heureusement. Et depuis que je suis abonné, mon évolution a pas mal changé. Au début, je me suis vraiment abonné pour le côté « Waouh, je vais avoir plein de jeux pas chers, c'est génial, il y a un super catalogue. » Et en fait, très rapidement, moi, c'est plutôt grâce aux fournées de jeux qu'il y a toutes les deux semaines que je suis beaucoup plus client de ça, et de pouvoir tester des jeux et de pouvoir jouer à des jeux indés par ce système-là. Un jeu un peu à rater, quand j'ai raté la hype d'un jeu parce que le jeu est sorti il y a trop longtemps ou quoi, mais le fait qu'il sorte dans le Game Pass, bah, ça m'a motivé, qu'il arrive dans le Game Pass, ça m'a motivé à y jouer parce qu'il est dans la petite bannière là où il montre les 4-5 jeux qui arrivent, et que je sais qu'il y a d'autres gens qui vont y jouer sur Internet, et ça crée une petite hype comme ça qui me motive à jouer. C'est un peu con, mais c'est comme ça. C'est un peu... une des façons de corriger un peu le backlog. Et par rapport à ce que disait Thomas, justement, j'ai pris l'habitude, moi, d'acheter les jeux. Alors, j'y joue toujours d'abord sur le Game Pass, mais après, j'achète le jeu en particulier et quasiment exclusivement, je vais être honnête, les jeux indés. Si je joue à un jeu Ubisoft ou même Back 4 Blood en Day One, je vais avoir moins de scrupules à ne pas l'acheter. En revanche, les jeux indés type les Spiritfarer, Hollow Knight et compagnie, si j'ai joué beaucoup dessus, j'achète le jeu après ma partie, en gros.
Ah oui, tu finis d'abord le jeu, et en gros, si t'as vraiment aimé, tu vas l'acheter, quoi.
C'est ça, ou si j'ai joué suffisamment, si j'ai pas fini le jeu, mais que j'ai joué quand même 40 heures, 50 heures, et que, que j'ai beaucoup aimé, quand même, je vais faire ce pas. Parti pris, et parce que je pense qu'on y reviendra plus tard, mais c'est parce qu'on va parler un peu de ce qui nous enthousiasme à propos de tous ces services d'abonnement qui sont devenus centrales dans la distribution. On va aussi parler un peu de nos craintes, et je pense qu'il y a un peu là-dedans déjà un prémisse de cette discussion-là, de continuer à montrer aux développeurs que j'ai envie de payer les jeux, et en même temps montrer aussi que j'ai, mine de rien, j'ai découvert le jeu par le Game Pass, donc voilà, c'est une sorte de un peu de comme ça, de cercle vertueux que moi j'essaie de faire. Peut-être c'est stupide, mais j'essaie de le faire comme ça.
Du coup, au final, le Game Pass pour toi se transforme un peu quasiment en plateforme d'essai, et on va dire que finalement tu achètes le jeu tout de suite après ou à la fin, ça change pas grand chose, mais en gros tu vas acheter derrière les jeux qui t'intéressent, quoi.
Ouais, en particulier les jeux indés pour soutenir les devs, parce qu'ils ont jamais, je pense qu'ils ont jamais trop d'argent quand c'est des jeux indés. Après je suis un peu abonné. J'essaye de garder que le Game Pass comme abonnement principal, mais à vrai dire, je me suis abonné au PlayStation Plus en bénéficiant
pour 3 ans là, en plus.
Du lancement. Ouais, parce que tu pouvais le faire que maintenant, on pourra plus le faire après. Donc du coup, je suis abonné sur le long terme et on verra bien ce que ça donne pour PlayStation Plus. Je suis un peu moins convaincu pour l'instant, justement, c'est peut-être les fournées qui vont me convaincre chez Sony. Et Apple Arcade, je me suis abonné qu'un seul mois et c'est vraiment que... Et je trouve ça intéressant, c'est une autre façon de consommer le jeu vidéo. Je m'y abonne que pour les voyages en train. En fait, quand je sais que j'ai un voyage en train, deux voyages par exemple en quelques jours parce que j'ai fait un aller-retour, je m'abonne à Apple Arcade et je télécharge les jeux sur mon iPad. Mais je m'abonne que pour un mois, quoi.
Du coup, j'ai une question là pour avant que moi je donne un petit peu comment j'utilise ces services là. Il y a une question là qui me vient, c'est par rapport aux offres équivalentes côté musique ou film. Est-ce que vous observez que vos usages étaient un peu similaires ou pas du tout? Typiquement, je pense particulièrement à Spotify à l'instant, mais pourquoi pas sur Netflix et compagnie. Est-ce que, genre, Kassim, est-ce que t'as continué au moins au début à continuer à acheter des films et des DVD que tu voyais, des trucs que tu voyais ou de CD de musique que tu entendais sur ces trucs-là, alors, ou rien à voir?
Alors non, parce que j'ai jamais eu l'habitude. Moi, je suis d'une génération. Enfin, je vais pas mettre ça sur le dos de la génération, mais j'ai jamais eu l'habitude d'acheter ni des CD. Ni des films, j'ai eu quelques films en DVD et en Blu-ray parce que c'était pas cher quand ils étaient en promo et avant que les services de SVOD se démocratisent parce qu'on a eu un peu de retard là-dessus, surtout en France par rapport au MP3, mais j'ai jamais eu l'habitude ni d'acheter l'un ni d'acheter l'autre, donc je suis passé dans l'offre légale au moment où ces abonnements sont arrivés.
Peut-être des places de cinéma, non?
Oui, voilà, oui. Je continue de financer un petit peu le MCU.
Tu vas voir après coup un film que tu as vu, au cinéma que tu as vu. Voilà. Et toi, Thomas, est-ce que tu as eu ce même conservatisme à ne pas basculer dans ces trucs-là ou t'y as foncé à l'époque?
Non, en vrai, c'est clairement, hein, pour ce qui est de la musique, j'en achetais pas avant. Et tu sais, c'est l'époque du piratage, c'était l'époque où j'avais pas d'argent, on était jeunes, donc forcément, avant j'avais de l'abondance, maintenant je l'ai aussi, sauf que je la paye, du coup elle est légale, mais la consommation doit être sensiblement pareille au final. Okay. Et pour ce qui est des films, des séries, je vois très peu de films, et les séries, pareil en vrai. Je les piratais, maintenant je les regarde légalement, mais la consommation, elle a pas changé.
Ouais, j'avais cette question-là parce que du coup, moi, pour le coup, j'observe chez moi vraiment les mêmes comportements et les mêmes problèmes, surtout ces trucs-là, en fait.
Je vois où tu veux en venir, vas-y.
Après, ça, je pense que je suis pas le seul, mais c'est assez spécifique comme comportement. C'est que j'ai énormément de mal, à m'y retrouver, moi, dans ces offres-là. Alors, déjà, je vais le dire, hein, je suis abonné au Game Pass, je crois, depuis que c'est possible. À coup de 3 ans, là, pareil, hein, via une astuce que j'ai lue sur Android pour payer moins cher mon Game Pass. Mais du coup, quand je fais les comptes et des jeux que j'ai joués, moi, j'estime que j'en ai pas eu pour mon argent malgré la ristourne dont j'ai bénéficié. En fait, parce que je suis tout simplement paralysé, moi, devant, en fait, autant de jeux. Il y a deux effets qui se confrontent chez moi, c'est que à la fois il y a trop de choses et du coup je sais pas trop en fait vers quoi aller, mais en même temps j'ai besoin, moi, de développer un peu une relation, en fait, avec que ce soit ma musique, mes jeux, etc. J'ai besoin, en fait, d'avoir envie d'un jeu, de me dire putain, faut que je me le paye, de faire l'effort d'aller chercher, de le déballer, de l'installer, etc. Toute cette relation là pour moi elle est un petit peu importante. Et après, ça m'oblige aussi à m'investir dans le jeu un peu plus émotionnellement, quoi. C'est-à-dire que t'as payé un jeu 50 balles, t'as quand même envie aussi de, voilà, de, d'en faire quelque chose, etc. Donc, en général, tu as aussi donné plus de chance au jeu, plus de chance à ces jeux-là de se développer et de donner ce qu'ils ont en fait derrière. Et moi, ce que je remarque, c'est que quand j'ai Game Pass, j'installe peut-être 50 jeux dans le mois, mais je joue 2 minutes chacun. Et en fait, ça, c'est comme, comme Netflix où je peux passer des soirées à regarder des petits bouts de 5 minutes et me dire bon, non, j'ai pas envie de voir ça. Et puis je change, quoi. Et du coup, je suis toujours super frustré sur ces offres-là. Mais en même temps, à chaque fois que il va quand même arriver un moment donné où il y a un super jeu qui sort et où je vais le faire et où je serai content, et en fait les prix des abonnements sont tellement bas que je me dis ok, bah finalement j'ai joué à un jeu, ça a payé 6 mois de Game Pass, donc même si c'est le jeu de même si c'est le seul jeu auquel je jouerai cette année, enfin en tout cas si c'est le seul jeu que j'ai joué pour 6 mois, bah c'est pas grave. Donc du coup en fait je me retrouve dans un spot où je me suis abonné à ces trucs là vraiment parce que je trouve que c'est ridiculement pas cher, et du coup bah c'est agréable d'avoir une plateforme de test de jeux. Donc pareil, je suis comme toi Cassim, il y a plein de jeux que j'ai achetés en fait alors qu'ils sont sur Game Pass parce que moi j'ai besoin soit j'ai envie d'avoir la DualSense et du coup je le prends sur PS5, soit j'ai envie de m'investir dans le jeu, de rémunérer en fait comme il se doit un développeur en fait. J'aime pas trop, je suis un peu gêné par cet artifice de l'abonnement. Je préfère me dire le développeur il a fait son jeu, il vaut tant, je l'achète. Il est à moi entre guillemets. Alors quand c'est en démat c'est un peu différent, mais voilà. Donc moi j'ai un peu ce comportement là. Je sais pas.
Ouais, vas-y. Ouais. Non, mais je voulais rebondir parce que je pense que c'est vraiment. Déjà, je me reconnais quand même beaucoup dans ce que tu dis. Je pense que tu as fait allusion, mais moi, c'est pour ça que tu vois, là, je suis abonné. Du coup, comme il a été lancé depuis 2 semaines, il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés entre guillemets sur le PlayStation Plus Extra. C'est beaucoup de c'est le gros du back catalogue qui est très bien par ailleurs. Mais tu vois, j'ai un peu tout installé, mais pour l'instant, j'ai rien lancé de ce qui est sur le PlayStation Plus Extra, alors qu'il y a plein de super jeux que je n'ai jamais fait. Dont God of War par exemple ou d'autres, genre les gros hits PlayStation, il y en a plein que j'ai pas fait et parce que j'ai un peu cette même peur du catalogue, et ça m'évoquait aussi une autre période, on parlait un peu de piratage, ça me fait penser que j'ai exactement le même comportement que toi à l'époque de la Wii et de la DS. Puisque c'était deux consoles qui étaient très facilement piratables, et même au-delà c'est pas que seulement qu'elles étaient facilement piratables, c'est que le système de piratage de ces deux consoles que beaucoup de monde connaissait faisait que tu te retrouvais avec dans les deux cas un système de stockage où tu avais 60 000 jeux dessus, t'avais quasiment tout le catalogue de la console qui tenait sur le jeu, qui était en plus ultra pratique parce que genre c'était mieux que l'offre légale parce que tu passais d'un jeu à l'autre justement, enfin c'est là le démat avant le démat quoi, on va dire. Et finalement, un peu comme Thomas le disait, le Game Pass ou le PlayStation Plus Extra est une version moderne et légale de cette expérience utilisateur-là, de se retrouver devant un catalogue, même s'il n'y a pas tout le catalogue de la console, évidemment, de se retrouver devant un catalogue large de jeux et du coup, des fois, de ne pas savoir quoi jouer. Et je me retrouve totalement dans ce que tu dis, je me retrouve aussi dans ce que tu dis sur Netflix et compagnie. Moi, à part si je sais spécifiquement ce que je veux regarder, sur Netflix, mon habitude, c'est d'aller voir la page nouveauté et d'aller choper quelque chose de là-dedans. Mais sinon, je regarde rien du back catalogue finalement Netflix, hormis quelque chose que je sais volontairement aller chercher parce qu'il est disponible là et pas ailleurs, quoi.
Ouais, mais en fait, Netflix, je pense que Netflix a très bien compris ça en organisant son interface sur un système de curation où ils vont essayer déjà de te trouver ton profil pour te proposer des choses que tu as envie de regarder, mais aussi te mettre en avant toutes les nouveautés, etc. Et les classements, maintenant tu as les classements et tout. Je suppose que ces interfaces-là, je trouve que ce soit le Game Pass fait ça un peu mieux.
Justement.
Même PlayStation. Après, on pourra reparler plus tard, mais c'est vrai que si là, on a parlé un peu de comment est-ce qu'on utilisait ces plateformes-là. Là, je suis sur nos attentes. C'est une transition parfaite. Moi, justement, ce dont j'ai besoin en fait pour être drivé dans ces problématiques que j'ai moi, c'est j'ai besoin d'une interface en fait qui me propose une interface qui soit pas trop surchargée, pas un truc que tu scrolles à l'infini, exactement comme Netflix où justement les catégories sont fermées et quand tu scrolles sur le côté là, quand, je sais pas si vous visualisez ce que je veux dire, mais quand tu scrolles sur le côté pour défiler les films, en fait c'est des toutes petites listes de je sais pas de 10 films et tu tournes vite en rond, et en fait ça permet justement de pas se retrouver devant l'infini comme ça, et donc moi ce que je pense que ce que j'attends en priorité là, du coup, sur ces plateformes-là, c'est vraiment des énormes efforts côté curation, côté interface, pour te donner envie en fait de lancer un truc et pas te donner envie d'en lancer 5, parce que quand on te donne envie d'en lancer 5, et ben t'en lances 5 chacun son tour, mais t'es plus l'esprit dans l'un dans l'autre, etc.
D'ailleurs, je sais pas si c'est à cause de la jeunesse du PlayStation Plus Plus. Mais c'est marrant parce que côté PlayStation, alors je saurais pas dire du coup côté Game Pass, donc comme on a dit, côté PlayStation, la curation, y en a quasiment pas. C'est juste une liste brute, limite classée par ordre alphabétique de jeux. Alors que si tu vas côté PS Store, donc là où tu peux acheter, hein, au final, là où c'est intéressant, mais il y a beaucoup de classements en fait. Ils vont te faire des petites curations parfois thématiques, genre à Noël, j'en sais rien, des jeux où il y a de la neige, Halloween, des jeux où il y a des zombies, et la Saint-Valentin, ils vont te mettre des jeux d'amour, là. Bref, vous comprenez quoi. Mais ça, ils le font côté PS Store, et ils le font pas encore,
si, au moins... Côté PS Plus, t'as des catégories genre jeux d'action, RPG...
Ouais, mais c'est un petit peu claqué, voilà. Ça, parce que bon, jeux d'action...
C'est plus des catégories de listes, quoi. Enfin,
ouais, pas, voilà, tu sais, parce que les catégories aujourd'hui, ça n'a pas trop de sens, hein, finalement. Un jeu d'action, quel jeu n'est pas action, tu vois. Mais pareil, les RPG, tous les genres aujourd'hui sont mélangés, donc c'est un peu... C'est vraiment pas terrible, la curation aujourd'hui, quoi. C'est pour ça que je considère qu'il n'y en a pas.
Vas-y, Kassim.
Pour le coup, c'est vrai que le Game Pass, c'est un truc sur lequel ils ont de l'avance clairement sur la concurrence. Tu sens qu'ils ont quand même, enfin, que ça fait quand même quelques années que c'est un peu leur sujet et que c'est clairement quelque chose sur lequel ils veulent investir de l'argent parce que c'est ce qui fait que tu vas jouer à des jeux, tous les systèmes de curation, les trucs de recommandations entre amis, etc. Tout ça, c'est des trucs qui sont super importants. C'est pas pour rien que Netflix aussi a vachement investi dedans. Hein. Netflix, il y a carrément des systèmes où les affiches des séries, des films que tu vois, pour chaque série ou pour chaque film, il y a genre une dizaine d'affiches possibles et ils affichent la bonne affiche correspondante à ce que à tes goûts et à ce que tu préfères. En allant jusqu'à des fois, en sachant que par exemple, tu es quelqu'un qui est amateur de produits avec des acteurs racisés, par exemple, ils vont carrément te mettre l'affiche avec les acteurs racisés, alors que la série, en fait, c'est des genre des rôles troisième, c'est des seconds couteaux un peu dans le film.
On avait vu ça parce que ma femme, après qu'elle soit sortie de sa période de full drama coréen, etc., on basculait en cherchant des films et on voyait que tous les films d'action, ils avaient les affiches faisaient plutôt penser à des comédies romantiques ou des trucs comme ça.
Voilà.
C'est assez impressionnant, ouais.
Ça n'existe pas encore dans le jeu vidéo, mais ce serait pas étonnant que ça finisse par arriver. Et je pense que clairement, la curation, ils vont continuer de l'améliorer. Et que c'est clairement quelque chose sur lequel le PlayStation Plus, il va falloir qu'ils travaillent. Même l'affichage d'une manière générale du catalogue n'est pas forcément super clair, même si.
Surtout qu'il me semble qu'il est le catalogue PS Plus. Alors, j'ai peut-être dit une bêtise, mais il est plus gros que le. Il y a plus de jeux à l'intérieur que. Donc PS Plus Extra. Parce qu'il faut, il faut préciser, il me semble qu'il est plus gros que celui du Game Pass. Donc,
je sais pas.
Enfin, ça se compte dans les deux cas, c'est en centaines, mais il me semble que côté PlayStation, il y en a plus. Ça veut pas dire que c'est mieux, hein, juste qu'il y en a plus. Et du coup, c'est encore plus fouillis. Enfin, va trouver quelque chose qui te plaît dans 600 jeux. Enfin, c'est impossible.
Mais en tout cas, voilà, c'est en tout cas la curation. Après, moi, j'avoue que j'ai jamais, dans les jeux que le Game Pass sélectionne pour moi, j'ai jamais vu de trucs vraiment très pertinents. Mais pour rebondir sur ce que disait Thomas, côté PlayStation, dans le Game Pass, il y a, je sais que au mois de juin, il y avait le mois des fiertés. Donc, c'était, voici une sélection de jeux qui aborde les thèmes un peu pour les LGBT. Là, ils ont décidé que c'était le mois de l'animé, et du coup, il y a Dragon Ball FighterZ, il y a Scarlet Nexus, tu vois, par exemple, dans leur sélection. Mais après, du coup, leur sélection, c'est beaucoup. Ça pourrait, c'est le mois de l'animé, ça pourrait être le mois du Japon, quoi, un peu. Hein, c'est, du coup, c'est tous les Japonais, de près ou de loin, sont.
Ouais, mais c'est déjà. Mais, ce genre de choses, je trouve ça. Enfin, bon, moi, je trouve ça bien. C'est vraiment quelque chose que je vais attendre côté PlayStation.
Mais alors, pour parler des attentes, et du coup, je vais encore taper un dernier coup sur PlayStation, mais. C'est un truc que moi, c'est ma marotte là. Un truc que j'adore dans mon usage du Game Pass, c'est le fait que les jeux me suivent d'une plateforme à l'autre, notamment du PC à la console. Et que voilà, Hollow Knight, par exemple, auquel j'ai joué ces derniers mois, j'ai pu y jouer à la fois sur mon PC et sur ma console dans le salon. Et je retrouvais la même sauvegarde et la même partie. C'est un truc que j'attends sur le côté PlayStation Plus. Après, c'est au-delà de ça, je pense que c'est un truc... le fait de pouvoir retrouver facilement ces jeux, les jeux auxquels tu joues en ce moment, et de reprendre là où tu en étais, comme le fait Netflix, justement, je pense que c'est une fonction assez importante, et c'est quelque chose sur lequel tous les services, même le Game Pass, vont devoir s'améliorer. J'irais même jusqu'à ne plus passer par le menu principal du jeu, quoi. Aujourd'hui, quand tu démarres un jeu, notamment dans le cloud gaming, tu es obligé de taper les menus de le logo Activision Blizzard, le logo Unreal Engine, le logo machin, menu principal, appuyer sur démarrer, charger la partie, synchroniser la sauvegarde. J'aimerais bien passer toutes ces étapes là et comme Netflix arriver directement au moment où je m'étais arrêté la dernière fois que j'ai joué au jeu, quoi.
Sur Game Pass en cloud, tu reprends pas ta partie comme sur Xbox en sortie de veille là,
non. Les menus. Ouais, tu repasses à chaque fois par tous les menus. Enfin, en fait, tu démarres le jeu sur une console à distance, à part si c'était il y a moins de 2 minutes que tu as fait ta dernière partie. Sinon, tu reprends depuis le début, comme si le jeu venait de s'installer sur une nouvelle Xbox. Après, tu reprends ta sauvegarde. Mais...
Techniquement, ça me paraît compliqué de garantir, oui. On va dire, ce truc-là. Sachant que que ce soit niveau film ou Netflix et tout ça, ils font pas ça, tu vois. Netflix, il te propose quand même son menu. Au moins, tu vois les jeux récents auxquels tu as joué.
Oui, ah non, moi je te parle.
Mais
je te parle du fait que sur Netflix, quand tu lances un épisode, tu retournes à la minute 15 si tu t'es arrêté à la 15e minute.
Effectivement.
Tu repasses pas par le début de l'épisode, je vais aller chercher à la main.
Et peut-être pour terminer sur les attentes, enfin je sais pas si vous avez d'autres choses, mais j'ai un dernier truc. Alors évidemment, on en a pas encore parlé, mais Nintendo, parce qu'ils ont aussi leur abonnement, et donc c'est forcément moi qui m'y colle. Alors eux, pareil, dans leur abonnement, il y a des jeux, il me semble que c'est dans l'abonnement plus aussi, avec son DLC, et il y a des jeux, et si j'ai une attente, c'est qu'ils en sortent un petit peu plus, parce que c'est que des jeux rétro, en général le rétro je m'en fiche, mais on sait que côté Nintendo, il peut y avoir des trucs qui peuvent m'intéresser, sauf qu'ils t'en sortent de manière complètement aléatoire. Et à chaque fois, c'est des trucs... je pense que vraiment, tout le monde s'en fout. Non, évidemment, pas tout le monde, mais c'est, je trouve ça, c'est vraiment pas très, très excitant, quoi. Vas-y.
Je considère pas ça comme un concurrent en l'état. Enfin, c'est pas... Je veux dire, pour moi, c'est même pas un... Tu vois, si je dois écrire un comparatif d'offres de jeux vidéo, je vais mettre le EA Play dedans, je vais mettre Ubisoft Plus, le Game Pass et compagnie, mais je vais pas mettre le Nintendo Online. Pour moi, c'est un plus, ça pourrait l'être en fait.
Oui, au sens strict. Non, mais s'ils commençaient à sortir des Chrono Trigger, des machins comme ça commencerait à parler parce que le rétro, c'est quand même un marché et donc ça serait toujours différent des autres abonnements, mais ça pourrait être plus intéressant.
Je pense que ça va peut-être même notre transition vers la partie suivante. Mais, sauf si on a quelque chose à rajouter.
Fais cette transition, vas-y.
Nintendo, ils ont fait un pas de côté un peu sur ce truc-là. Ils ont quand même leur Game Pass des DLC qu'ils sont en train petit à petit de construire, où à chaque fois qu'ils annoncent un DLC pour un des derniers jeux populaires qu'ils ont eu, le DLC arrive. Ça s'est vérifié pour l'instant sur les derniers gros DLC. On verra s'ils continuent et s'ils le font vraiment pour tous ou selon une sélection. Mais à chaque fois qu'ils ont annoncé un DLC pour Animal Crossing, puis pour Mario Kart, et je crois qu'il y en a peut-être un troisième que j'ai oublié, le DLC est payant, tu payes 20€, ou tu peux l'avoir day one, gratuitement, entre guillemets, dans le catalogue, si tu es abonné Nintendo Switch Online plus pack d'extension, ce nom merveilleux.
Ouais, mm-hmm. En fait, moi, je pense que Nintendo, effectivement, ils ont une vue un peu différente de leur service. Je pense qu'ils le voient plus comme un truc de privilège, tu vois.
Ouais.
Et donc, effectivement, il y a un peu de tout. Là, récemment, ils offraient, alors, je crois que c'est que jusqu'à hier, hein, mais désolé si vous l'apprenez ici, mais ils offraient Mario Lapin, là.
C'était jouable gratuitement pendant quelques jours, mais je crois pas que c'était à vie.
Tu crois que si t'avais pris le jeu, pour moi c'était pendant 2-3 jours.
Thomas pourra confirmer, mais il me semble que ça c'est les offres où Nintendo t'offre pendant 5 jours et te disent tu peux jouer gratuitement à tel jeu pour le découvrir, et après il faut payer après les 5 jours, je crois. Mais
D'accord. Non, effectivement. Alors effectivement, t'as raison. Je l'ai sous les yeux. Effectivement, c'est des offres effectivement de. Tu peux y jouer aussi, gratuitement pendant 3 jours. Ouais, c'est bien aussi. Mais du coup, entre les DLC, entre les jeux rétro, entre la possibilité d'acheter les manettes spéciales rétro machin. Tu vois, je le vois vraiment comme, enfin plutôt comme un truc où ils vont mettre un peu ce qu'ils veulent et c'est pas très bien défini. En plus, les jeux, je veux dire, il y a pas de règles. Hein. Peut-être que Thomas, tu me contrediras, mais je crois pas qu'il y ait de règles. On n'attend pas chaque mois les nouveaux jeux du Switch Online comme on attend les nouveaux jeux du Game Pass ou les nouveaux jeux.
Clairement, hein, ils avaient dit que c'est pas régulier. C'est pas régulier, ils l'ont annoncé ça. C'est quand ils veulent, ils sortent un truc que personne connaît.
Donc voilà, ça fait effectivement Nintendo un peu à part. Après, ils sont à part et ils le revendiquent. Mais ce qui est étonnant, c'est que Sony avait aussi un peu ce discours-là, de revendiquer un peu un côté un peu premium, un peu à part. Ils vont pas faire ils vont pas donner leur jeu, etc. Mais finalement, petit à petit, tu vois bien que, pour moi, l'offre PS Plus, il y a quand même des jeux très très récents et des jeux qui sont potentiellement normalement des longs sellers. Et du coup, mine de rien, ils finissent quand même par arriver sur ces plateformes-là. Donc, on n'est pas à l'abri que Nintendo d'ici une génération, parce qu'ils ont toujours un peu plus de mal que les autres à bouger.
Ils viennent de découvrir le online, hein, donc on va leur laisser.
Ils viennent de brancher le câble Ethernet, donc tout doux. Mais ils vont finir probablement par arriver aussi à un état de truc où on pourra avoir un vrai catalogue probablement rétro, mais peut-être qui aille un peu plus loin que la Super NES et la 64.
Après, le truc à noter aussi, hein, on n'a pas parlé des prix, mais Nintendo, c'est ce qui coûte le moins cher et de loin. Hein. D'ailleurs, c'est la seule offre qui propose le truc familial et tu peux t'en sortir pour 10 balles par an. Donc,
je crois que Game Pass aussi a du familial.
Non,
non. C'était en discussion, je crois. Enfin, c'est...
Alors, on parle pas de la même chose. Le PlayStation, le Game Pass et le PlayStation Plus ont du familial dans le sens où tu peux partager ton abonnement avec les membres de ta famille et les gens peuvent un peu profiter des trucs. Mais ça reste très limité. C'est pas une offre familiale comme Nintendo l'entend ou comme Netflix l'entend où tu payes pour vraiment plusieurs comptes entre guillemets. Pour partager le truc entre plusieurs comptes, entre plusieurs personnes. Mais ça, le Game Pass, effectivement, après, il y a eu des rumeurs comme quoi ils vont y travailler parce que c'est une évolution logique. Enfin, Spotify le propose, tous les services d'abonnement le proposent. Et effectivement, dans le jeu vidéo, il n'y a que Nintendo pour l'instant qui est sur ce truc-là.
Du coup, on a un peu évoqué qu'il y avait plusieurs offres. Moi, il y a des offres pour moi qui sont un petit peu à part, hein, typiquement EA Play ou Ubi Plus, où c'est leur propre catalogue à eux et uniquement le leur. Alors, je sais pas, peut-être qu'Ubi, mais vu qu'ils sont éditeurs, ils ont peut-être plus de jeux. Je sais plus. C'est EA qui avait d'autres jeux à une époque, mais je sais pas s'ils ont continué ça d'avoir des jeux tiers sur leur offre.
Dans les deux cas, effectivement, ils ont des jeux tiers dessus, mais c'est pas du tout l'intérêt de leur catalogue.
Ouais,
ils en rajoutent plus, et c'est pas le but.
Parce que du coup, Game Pass, PlayStation, les offres mobiles là, comme Apple Arcade, etc. Là, on est vraiment dans une optique de catalogue vraiment comme on l'entend quand on pense à du Netflix, du jeu vidéo, etc. Mais du coup, la question qu'on peut se poser, et pour continuer un peu la discussion et là-dessus, je voulais juste un peu rappeler les différentes façons qu'un développeur, en fait, comment est-ce qu'il peut gagner de l'argent, lui, en mettant son jeu à dispo sur Game Pass. Donc, c'est juste pour les exposer rapidement, pas forcément pour en discuter, mais parmi les différents articles qui sont sortis, les développeurs qui ont qui ont un peu, voilà, un peu parlé un petit peu de comment ça pouvait se passer. Moi, j'ai retenu donc différents aspects. Donc, il y a la partie. Alors, je vais parler en mode Game Pass. Hein. C'est Microsoft qui achète aux développeurs un certain nombre de clés, qui dit, bon, voilà, je vous achète, je sais pas, 10 millions de clés. Et grosso modo, après, bah, ça, c'est en one shot, quoi. Ils achètent ça et le jeu est dispo un certain temps, du coup, sur le Game Pass, le temps que les clés soient consommées. Il y a aussi la possibilité, du coup, de faire du financement de développement, où là, Microsoft va financer la fin du développement, peut-être une partie du marketing en échange, bah, du coup, le jeu arrive en day one. En day one, voilà, sur le Game Pass, voire peut-être en exclusivité. L'autre chose que j'avais vu, l'autre système que j'avais vu, et je l'avais vu, je crois, pour Vampire Survivor, c'est au nombre de joueurs qui jouent au jeu avec des conditions de temps de jeu. C'est-à-dire que Microsoft dit OK, on vous paye tant pour chaque personne qui joue, à condition que cette personne joue au moins 3 heures, un truc comme ça. Avec éventuellement des différents paliers où ils donnent plus si un joueur reste 15, 20, 30 heures. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'avais vu en termes de contrat. Et les autres possibilités pour faire de l'argent, c'est tout simplement, après, en plus du jeu, vendre après soit des DLC ou même de vendre des jeux complets grâce à l'exposition. Parce que ça, mine de rien, ça, c'est un aspect qui est super important. On en parlait juste avant le podcast, c'est que, bah, du coup, quand ton jeu est dans une de ces plateformes, alors PlayStation Plus, je sais pas à quel point c'est vrai. Enfin, c'est trop neuf, hein, on a eu une seule nouvelle fournée, mais c'est vrai que Game Pass, ils savent en fait mettre en avant les jeux qui rejoignent le Game Pass chaque fois. Donc on a tous les mois ou peut-être toutes les deux semaines, on a un tweet, un visuel avec une affiche avec les jeux, les 4-5 jeux qui rentrent dans le Game Pass. Et du coup, bah, ça crée quand même beaucoup d'exposition. Puis après, s'il est joué sur Game Pass avec le bouche à oreille, ça peut aussi aider le développeur à vendre ses jeux, ou peut-être voir même leurs anciens titres, si c'est des joueurs découvrent le développeur, etc. Donc voilà, donc maintenant que j'ai dit ça, je me tourne vers Kassim. Du coup, est-ce que les développeurs sont contents? Est-ce que tu sais, toi qui es dans le secret des yeux,
bien sûr.
Est-ce que si les développeurs sont contents de c'est du Game Pass en général, de tout ça, est-ce qu'on a des infos?
Je pensais à un truc sur ce... Alors, déjà, tu as fait une très bonne présentation, excellente présentation de tous les trucs à savoir. Tu me fais penser aussi au fait que tu parlais du bouche à oreille et à le fait que du coup il y a beaucoup de jeux. Je sais pas à quel moment on va peut-être en parler dans l'émission, mais le fait qu'il y a beaucoup de jeux multijoueurs du coup qui ont choisi d'arriver dans ces services-là pour se donner aussi une base. C'est pas quelque chose de monnaie de on peut chiffrer en termes d'argent, de chèques ou que Microsoft aurait fourni ou quoi, mais de se dire c'est rassurant pour un éditeur ou un développeur de se dire mon jeu il arrive dans le Game Pass, donc je sais que je vais avoir à peu près quelques millions de joueurs assurés sur mes serveurs multijoueurs et que mon jeu il va pas être vide dès le début. Et pour les jeux coop ou les jeux voilà, même les jeux PVP, ça peut avoir un intérêt de se lancer sur ce genre de service.
Vu qu'on en parle maintenant, autant en parler maintenant, mais c'est vrai que tout ce qui est jeu-service, de toute façon, je pense que le gain est double, en fait, enfin, voire décuplé plutôt que double, d'être sur ces trucs-là. Parce que moi, je pense, quand on parle de service ou de jeu-service, souvent la métrique, les chiffres qui sont mis en avant pour après lever des fonds, etc., ça va être la base d'utilisateurs, le nombre d'utilisateurs, peu importe si ta boîte elle gagne ou pas de l'argent, si tu arrives en disant on a tant de joueurs et tout, ça peut t'aider après à te développer, etc. Et le jeu service est un peu sur ce modèle là quoi, c'est-à-dire que quand un jeu service, même si finalement je sais pas, Microsoft leur a pas acheté le jeu super cher, derrière, si tu as une base de joueurs gigantesque, bah tu peux vendre soit les microtransactions, soit les DLC, ou après faire des marchés des investisseurs pour développer le jeu, etc. Donc effectivement, pour ces typologies de jeux-là, c'est limite super important, parce qu'en fait c'est ça le tout. Nous on en a vu plein, hein, des jeux services, des Overwatch-like se lancer. À chaque fois la problématique c'est qu'au bout de 3 jours il y a 3 personnes sur les serveurs, et bah du coup même si le jeu était bien, bah c'est dommage, mais c'est terminé. Alors que bah du coup d'avoir une présence Game Pass, ça te garantit. Je sais que tu veux me parler de Back 4 Blood, c'est ça?
Non. Mauvais exemple. J'allais te parler de Fall Guys avec le PlayStation Plus,
ouais,
qui s'est lancé dans le PlayStation Plus avant la refonte de l'offre il y a 2 ans. Et pour le coup, ça a été un ça a fait partie du succès. Bon, je pense que même sur PlayStation Plus, le jeu a probablement rencontré un succès parce que c'était l'été et que le jeu tombait super bien, confinement et tout ça. Mais le fait de se lancer dans le PlayStation Plus, ça a forcément apporté aussi une base d'utilisateurs directs. Mais oui, après, après le Game Pass, c'est devenu le service de tous les jeux de coop à 4 joueurs contre des zombies qui passent.
Ouais, mais tu vois, parce que il y a aussi des contre-exemples. Enfin, des contre-exemples, je sais pas, mais vous parliez des jeux multijoueurs qui se lancent, qui ont un gros succès et on est content. Par exemple, tu as Outriders. Qui est sorti sur le Game Pass, qui a eu je sais plus combien de millions, c'était 4 ou 5, là, un truc comme ça, peut-être un peu moins de joueurs, et donc selon Square Enix, hein, très probablement grâce au Game Pass, vu qu'il était dessus Day One, et au final le jeu bah, il est toujours pas profitable, parce que bah, les gens ils y ont joué un peu, entre guillemets, entre gros guillemets, gratuitement, et voilà, c'est tout. Xbox leur a payé une certaine partie, on sait pas combien, mais pas assez pour qu'il soit profitable, forcément, et ben, le jeu n'a pas suivi derrière. Donc c'est aussi possiblement à cause du jeu, peut-être qu'il est pas assez bon, peut-être qu'il n'y a pas de suivi, peut-être que je sais pas, mais tu vas aussi trouver, si tu les cherches, tu vas aussi trouver des histoires où le succès finalement il a été ok, mais il n'est pas suffisant finalement.
C'est oui, parce que finalement,
j'ai beaucoup de joueurs que t'as gagné beaucoup d'argent. Quoi.
Parce que effectivement, j'ai un peu esquivé du coup la question de Johan, donc je vais y répondre au moins rapidement. Tu me demandais si les développeurs étaient contents. Alors du coup, Thomas a donné le contre-exemple, mais il y a aussi des développeurs justement, oui, qui ont plutôt publiquement dit qu'ils avaient été assez satisfaits de rentrer dans le Game Pass. Moi, j'en avais un en tête, mais après, il y a eu plusieurs histoires. Ça s'est enchaîné, soi-même. Sur plusieurs mois, et voilà, souvent des indépendants hein, quand même. Donc en l'occurrence, le développeur de Descenders, donc un jeu de vélo ou de moto, je ne sais plus, où on dévale des pentes, de moto peut-être, et qui était très content d'être arrivé dans le Game Pass Day One parce que ça a permis justement de couvrir une partie du marketing avec la visibilité offerte par le service. Et ça a surtout offert une base solide d'utilisateurs qui ont assez bien transformé, enfin ils ont réussi à faire la transformation où soit des abonnés ont payé le jeu, soit des comment dire, avec le bouche à oreille justement le jeu a généré du bruit pour satisfaire assez les développeurs pour qu'ils soient plutôt plutôt satisfait, et justement le côté de on a pu dès le jour de lancement avoir un gros paquet de joueurs qui est une assurance qui est vachement qui permet vachement aux développeurs de souffler aussi aux indés. Il faut imaginer quand même quand t'es indé et que tu crées ton jeu et que t'as aucune idée de savoir s'il va marcher ou pas, quand tu as au moins cette petite assurance de te dire que t'as été repéré ou t'as réussi à dealer d'être jour 1 dans tel ou tel service. C'est une exposition supplémentaire. C'est la même chose que quand tu arrives à dealer, d'être dans le Nintendo Direct ou tu vois, dans une conférence un peu mise en avant. C'est forcément déjà un petit soufflement pour te dire bon, bah, je vais pas complètement dans l'inconnu avec mon jeu. Quoi. Donc, c'est plutôt positif. Après, sur Outriders, je sais clairement pas dans quelle mesure c'est pas la faute aussi de Square Enix et du deal qu'ils ont passé, parce que je trouve ça quand même assez curieux à quel point le jeu a quand même cartonné par rapport à ce qu'il était. Ouais. Enfin, personne ne donnait une chance à Outriders avant son lancement.
D'ailleurs, pour préciser, il me semble que le deal avec Xbox, il s'est fait vraiment dans les derniers jours. Je crois qu'on a appris à peine avant que le jeu sorte qu'il arrivait sur. Peut-être parce qu'il n'y avait pas assez de précommandes, il n'y avait pas assez de wishlist, de hype ou de. Ils ont dit oh ça va chier.
Je me demande à quel point Phil Spencer il regarde pas les previews et puis après il va voir Square Enix et dire, votre jeu là il va se planter, vous allez perdre, vous allez mourir, allez chez nous. Je vous rappelle.
Alors, je pense que c'est intéressant de mentionner que du coup on parlait un peu de curation tout à l'heure, de comment tu présentes la chose aux joueurs, mais il y a aussi la question de la curation, justement de sélectionner ce que tu veux faire entrer dans ton abonnement. Et il y a le Game Pass qui est quand même devenu, justement dans la dernière année en particulier, depuis Outriders en particulier, un peu la route secours de certains développeurs, Et là, je pense plus au jeu d'Ubisoft dont je viens d'oublier le nom, en coop, qui est sorti en début d'année, ou qui est pareil, du jour au lendemain, on a appris qu'il sortait Day One dans le Game Pass parce que on a bien compris qu'il avait
pas Back 4 Blood, mais le
Rainbow Six Extraction,
ou je sais plus.
Ouais, Extraction, je crois. Qui voilà, on sentait bien qu'il allait se planter, et hop, le meilleur ami Microsoft qui arrive un peu pour le jeu dans le Game Pass. Pareil pour Avengers, même si là c'était après le lancement. Tu sens que c'est un peu des fois des ça sert un peu de roue de secours, que moi je trouve pour le coup assez critiquable, dans le sens où j'aimerais bien, enfin pour moi ce genre d'abonnement gagne à faire gaffe à la qualité des jeux qu'ils mettent sur leur service, quoi.
D'ailleurs, je voulais rebondir un petit peu sur ce que tu disais juste avant sur les devs qui sont contents, et notamment les devs indés, et c'est en rapport aussi avec la curation. C'est que, alors déjà c'est vrai, hein, y en a pas mal d'exemples de devs qui sont très contents d'avoir eu plein de thunes, et c'est normal, mais du coup déjà c'est normal, on leur a filé plein d'argent, ils vont te dire ah bah non, c'était pas assez, enfin voilà, déjà au moins tu peux comprendre ce biais là de ils vont te dire ils vont essayer d'être gentils avec Microsoft, et c'est aussi très probablement possible que ça les a énormément aidés, ils ont fait plein d'argent, tout ça. Maintenant, il y a aussi des exemples qui vont un peu dans le sens inverse. Par exemple, tu avais Game Bakers qui avait pas mal discuté de ça. Et alors eux, pour le coup, ils ont deux jeux super connus, hein, c'est Fury et Haven. Et il y en a un qui a été sur le PS Plus, c'est Fury, et l'autre qui a été sur le Game Pass, c'est Haven.
C'est ça, ouais.
Et du coup, il y avait un truc qui était... Donc eux, il y a une vision qui est assez intéressante. Donc c'est que Fury n'a absolument pas marché sur Xbox. C'est un marché où ça n'a pas du tout pris. Alors que malgré le PS Plus... Donc ils ont eu beaucoup d'argent, je crois que ça recouvrait un tiers de leur développement, le PS Plus, le deal qu'ils ont passé avec PlayStation. Mais malgré ça, ils ont quand même gagné beaucoup d'argent dessus, et beaucoup sur Switch aussi, où il n'y a aucune offre là pour le coup. Et donc du coup, côté Xbox, ça marchait pas du tout, et quand ils ont eu Haven, là ça a très bien marché. Alors... sur Xbox, pardon. Alors bien sûr, les jeux ils sont quand même super différents, hein, c'est pas du tout le même feeling et tout, mais eux, donc c'est même pas moi qui le dis, c'est eux qui pointaient que si c'est super pour certains devs d'avoir plein d'argent comme ça, et ça les aide vraiment beaucoup, ils disaient que malheureusement, sans le Game Pass, tu peux avoir un gros problème de visibilité précisément sur Xbox. Et en tout cas beaucoup moins chez PlayStation. Ça veut pas dire que c'est super bien codé, mais en tout cas eux ils pointaient que côté Xbox, le Game Pass faisait un petit peu la loi, et du coup la curation dont tu parlais avant, ça peut aussi devenir l'avis de vie ou de mort, finalement j'exagère un peu, mais des jeux. Et du coup quand tu commences à avoir, et alors là bien sûr on est dans la fiction, hein, je sais pas comment ça se passe et je sais pas comment ça sera dans quelques années, mais si tu commences à avoir un abonnement qui est encore plus important que maintenant, et que tu fais la loi avec ton abonnement, est-ce que tes deals, tu vas pas avoir trop de poids dedans, et pendant la négociation, et tu vas essayer de baisser les offres que tu proposes. Et bon, je pourrais encore boucler là-dessus et rebondir sur un autre sujet, mais je vous laisse.
Non, mais je pense que tu prends des sujets de toute façon qu'on avait prévu d'aborder sur les craintes un peu sur le futur. Et je pense que tu pointes d'un truc du doigt qui est le poids potentiel de l'abonnement, pardon. C'est aussi pour ça, je pense que, enfin moi par exemple, c'est aussi pour ça que j'essaye d'acheter les jeux pour toujours essayer de garder, enfin quand même de pencher autant que possible en tant que consommateur le poids sur l'achat de jeux, et le fait qu'il y ait quand même des gens qui passent par l'achat de jeux, autant que faire se peut. Après, je vais en profiter pour le dire maintenant. On fait souvent un comparo avec Netflix en disant que le Game Pass est le Netflix du jeu vidéo, ce avec quoi je suis assez d'accord, parce que sur le côté, d'ailleurs on n'en avait pas parlé dans la première partie, mais le fait que les jeux Xbox, Microsoft, enfin des studios internes de Microsoft arrivent dès le premier jour dans le Game Pass, c'est une particularité du Game Pass que n'a pas le PlayStation Plus. Mm-hmm. Et c'est un truc qu'a fait Netflix. Enfin, si Netflix est aussi connu aujourd'hui, c'est avant tout pour ses Netflix Originals, les fameux, enfin Stranger Things par exemple, hein, pas plus tard qu'il y a quelques semaines. Mais la différence, la grosse différence entre Netflix et Xbox pour le moment, toujours, c'est que le Game Pass, c'est que un des trucs, des circuits de revenus pour Xbox, même s'ils le mettent beaucoup en avant. Netflix, à part vendre quelques DVD à la marge, globalement, l'essentiel de leurs revenus, c'est qu'il faut qu'ils aient des abonnés, quoi. Xbox, quand ils vendent des jeux, ils veulent toujours quand même vendre des jeux sur leur Xbox Store. Si les développeurs vendent leurs jeux, vendent des jeux sur Xbox Store, ils sont contents, ils gagnent 30% du jeu. Pareil pour les DLC. J'ai envie de croire, sans vraiment les croire, j'ai envie de croire à Microsoft quand il parle de créer une sorte de, quand même de garder un écosystème vertueux où il n'y a pas que le Game Pass qui existe sans rien d'autre à côté. Sans vouloir les croire, ça, c'est un propos qui peut en tout cas avoir du sens dans le sens où ils gagnent de l'argent aussi autrement et que justement, pour le coup, ça peut être malin, même en termes pour gagner plein d'argent, ça peut être malin de vouloir justement de ne pas tout mettre sur le Game Pass et de ne pas tout miser sur l'hégémonie du Game Pass et de ne pas créer des joueurs qui ne voudraient plus aller sur le Xbox Store pour payer des jeux, quoi.
Ouais. Mais d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, il y a aussi à suivre l'évolution de ces différents marchés, par exemple. Alors, promis, je vais en dire du bien après. Hein,
parce que mais c'est important.
Par exemple, ça a été noté dernièrement que grosso modo, les ventes de jeux tiers sur Xbox baissaient. Tu vois, au dernier trimestre, ça a baissé. Alors que, selon toujours, là pour le coup, c'était selon Xbox, leurs revenus montaient parce que il y a plus d'abonnements, tout ça. PlayStation, c'est pas le cas. Proportionnellement au nombre de PlayStation, de consoles vendues dans les deux cas, il y a plus de ventes de jeux tiers sur PlayStation. Il y en a de plus en plus, alors que sur Xbox, il y en a de moins en moins. Donc, est-ce que on peut tracer le trait ? Après, c'est peut-être pas que ça. Il y a peut-être plein de raisons. Mais est-ce que il y a pas déjà un début d'effet Game Pass ? Et oui, pardon, je t'ai coupé.
Non. C'est juste pour rajouter, pour aller dans ton sens, Alors, c'est peut-être une autre façon de tourner les chiffres que tu viens d'annoncer, mais en gros, on voit dans les chiffres de vente des jeux, Game Industry fait beaucoup ça, GameIndustry.biz, de dire tel jeu, je ne sais pas, le Assassin's Creed qui vient de sortir, 80% des ventes se sont faites sur PlayStation plutôt que sur Xbox. Et on voit, alors évidemment, ça vient aussi de la popularité des consoles, la PlayStation est beaucoup plus populaire que la Xbox, mais effectivement, il y a l'air d'avoir... une plus grosse habitude d'achat de jeux. On semble avoir ce début d'intuition qu'il y a plus d'habitude d'achat de jeux côté PlayStation, et il y a cette intuition que oui, il y a quand même des joueurs qui, à cause du Game Pass, finalement, n'achètent plus de jeux ou en achètent moins que ce qu'ils en auraient acheté si le Game Pass n'existait pas, malgré le fait que Microsoft dise que grâce au Game Pass, il y a des gens qui achètent plus, que les abonnés au Game Pass ont tendance à plus dépenser ou plus acheter de jeux, etc., en moyenne sur la totalité de la population. Chiffre que je vais automatiquement tempérer de moi-même en disant que, attention, les chiffres que donne Microsoft pour l'instant, c'est sur la première tranche de joueurs qui s'est abonné au service et qui était peut-être déjà susceptible de payer beaucoup de jeux.
Ouais, c'est ça, c'est l'œuf ou la poule, en fait. Est-ce que c'est pas plutôt les gens qui achètent beaucoup de jeux qui se sont abonnés au Game Pass?
Exactement.
Et du coup, leur comportement n'a pas... a peut-être été modifié, mais peut-être pas assez pour disparaître complètement. Et du coup, ils continuent à avoir...
comme on n'a pas de détails sur les recherches qu'a fait Microsoft pour savoir exactement comment ils déterminent que gens, quand ils sont abonnés, payent plus... c'est difficile de pouvoir dire.
Ouais. Et puis en plus, souvent ces chiffres-là et les chiffres en général sont présentés sous un bloc un peu monolithique, genre les joueurs achètent plus que si cela. Mais en fait, quand tu regardes après à la loupe sur tel ou tel pays, sur tel ou tel marché, les comportements sont parfois vraiment complètement différents. C'est parfois même très surprenant. de constater par exemple que bah je sais pas, moi j'avais vu ça, j'ai eu des détails de chiffres pour Pokémon Go à l'époque où tu pouvais lire dans la presse des chiffres qui disaient bah 30% des joueurs ont dépensé X, mais en fait c'est pas du tout, enfin c'est pas du tout au niveau mondial, quoi. C'est ça, si tu regardes le Japon, ils ont dépensé 90% de la somme, tel autre pays ils y jouent beaucoup mais ils mettent pas d'argent dedans, enfin voilà, c'est les comportements des joueurs, c'est compliqué de voilà d'en faire des généralités, mais juste pour revenir sur cette idée que qu'effectivement potentiellement les joueurs qui ont accès à un truc aussi fort que le Game Pass vont forcément, en fait ils achètent moins de jeux, en fait ils achètent, enfin peut-être qu'au début ils achètent moins de jeux, je pense que ça petit à petit ils vont acheter de moins en moins de jeux parce que de toute façon le temps est pas extensible, quoi. Si t'avais le temps de jouer à 3 jeux avant, et ben maintenant avec le Game Pass avant t'achetais 3 jeux, bon, je pourrais jouer à ces 3 jeux là par mois, et ben maintenant il y a 2 de ces jeux qui vont être dans le Game Pass par exemple, et donc du coup forcément tu n'as besoin que d'acheter qu'un jeu de plus pour finir ton mois, donc voilà, je pense que forcément, inévitablement, plus ces offres vont devenir intéressantes, et je veux dire, il n'y a pas de secret, tu regardes ce qui se passe avec Netflix ou avec Spotify, alors bon, il y avait d'autres contextes, parce qu'il y avait le piratage, etc., mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'achète encore des CD, des vinyles et des DVD, mais autour de moi, je ne connais absolument personne qui fait ça. Et parce que bah, du coup, les comportements mettent un petit peu de temps à changer. Donc le Game Pass reste, mine de rien, assez nouveau. Il n'est disponible que pour un certain type, pour le moment, une typologie de personnes qui ont soit déjà un PC, soit déjà une console. Le cloud arrive, il est de plus en plus convaincant, d'ailleurs partout, hein, je veux dire, même chez PlayStation, il est très solide, enfin, l'expérience de joueur maintenant, elle est vraiment satisfaisante un peu partout, et du coup, maintenant que il faudra voir ce qui va se passer maintenant, quand ces services-là seront disponibles sur des devices non joueurs, quoi. Donc on commence à voir les télés qui arrivent, qui embarquent ces trucs-là. Mais je pense que ça va prendre un peu de temps à s'installer, mais je suis assez convaincu que ça a le potentiel. Je dis pas que ça, je veux pas faire l'augure funeste et que tout c'est la fin du monde et tout ça, mais je pense que ça a quand même le potentiel de drastiquement shifter, quoi, les habitudes d'achat pour les rediriger justement vers juste le confort d'allumer le Game Pass et de choisir de choisir dans le cadre du Game Pass, quoi.
Et même au-delà de tu disais de rediriger tes habitudes d'achat, c'est même au-delà de, tu peux les rediriger aussi vers Microsoft. Je m'explique, tu parlais avant, peut-être tu prenais l'exemple de quelqu'un qui achetait 3 jeux par an, peut-être que dans le tas il y avait FIFA, peut-être qu'il y avait allez, on va dire, il y avait FIFA, Assassin's Creed et Halo, j'en sais rien. Donc ça faisait 2 jeux tiers et un jeu Microsoft, first party. Et bien aujourd'hui, s'il attend les jeux qui sont dans le Game Pass, il va donner 100% de son argent à Microsoft, du coup, qui lui le répartira comme il le veut. Mais c'est aussi un truc à prendre en compte pour moi, parce que je focus pas mal sur les tiers, mais la stratégie du Game Pass, elle est là-dedans pour moi. Peut-être qu'ils donneront autant de jeux qu'avant, mais ils le donneront plus à Microsoft et moins au reste.
Oui, bah c'est des éléments qui sont super importants. Et oui, on se concentre beaucoup sur les jeux tiers parce que c'est le nerf de la guerre, dans le sens où c'est eux qui sont les plus à même d'être, entre guillemets, victimes du Game Pass, si jamais ou des formes d'abonnement de la sorte, si le service devient moins vertueux ou le système devient moins vertueux. On pourrait parler après de la capacité des développeurs internes, enfin des studios first party à suivre, etc. Mais c'est un autre sujet. Le vrai sujet, c'est les jeux tiers, c'est les indés, et c'est tout ce que tu évoquais.
Surtout que pour rester... Alors, je tiens quand même à souligner, hein, parce que là, j'ai l'impression de moi, pour le coup, faire l'augure funeste, mais quoi qu'il se passe... Avec Game Pass, ça va être ça pourrait être difficile pour une partie des indés. S'ils étaient pas là, ça serait aussi difficile pour une partie des indés aussi, hein. On sait qu'on a beaucoup, 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 beaucoup de jeux en ce moment. Forcément, il y aura des perdants dans tous les univers parallèles. Donc, ouais. Je dis pas que le scénario d'aujourd'hui, c'est le moins bon, ou je sais pas, hein.
Non, mais justement, t'as raison, c'est sur ça que je voulais rebondir en disant que, d'abord, je vais rappeler que le jeu vidéo, c'est différent de Netflix et de Spotify. C'est des marchés qui sont différents. Les gens ont encore l'habitude d'acheter des choses. On n'est pas sûr que l'abonnementification de l'industrie suive exactement le même parcours qu'elle a suivi dans d'autres industries. Après, je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur le fait que quand tu es abonné, forcément, pour un même temps de jeu, il y a forcément... t'as forcément plus envie de jouer à des jeux que t'as pas acheté, enfin qui sont gratuits. S'ils t'intéressent, en plus, t'as encore moins de raisons de les acheter. Donc forcément, intuitivement, on a envie.
Ce qui est sûr pour moi, c'est que ça m'a plus d'une fois, ça m'a calmé des achats compulsifs en fait. Plus d'une fois, je me dis je vais me prendre direct. Je sais plus c'était quoi, mais c'était assez récent, un jeu indé justement. Et au moment d'afficher le prix, je me disais, ah bon, quand même, faut être raisonnable. Et puis j'ai l'icône du Game Pass en bas. Et finalement, j'ai lancé un jeu Game Pass que j'ai plus jamais relancé derrière. Mais peut-être, tu vois, peut-être que le jeu que je m'apprêtais à acheter, j'allais pas non plus jouer.
Je pense que ça vient aussi de notre rapport au back catalogue. Je pense qu'on a eu, enfin, j'ai l'impression qu'on a tous les trois grandi aussi avec les soldes de Steam et le fait d'accumuler des jeux sans forcément y jouer. Et je pense que ça joue aussi un peu contre nous. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'arrive.
C'est possible. Alors, moi, j'ai réussi à me libérer à 100% de cette idée-là. C'est-à-dire que je n'ai tout simplement plus de back catalogue. Quand j'arrête un jeu, je considère que je l'ai terminé. Mm-hmm. Et voilà, il est fini. Donc, mais oui, en fait, en gros, forcément, pour moi, forcément, c'est assez net que c'est de l'argent qui est redirigé vers Game Pass. Qui fait que, alors je dis Game Pass à chaque fois, hein, mais il faut bien comprendre que je parle de tous ces abonnements en même temps, comme ça c'est plus simple. Forcément, il y a des indés qui ratent, on va dire, forcément des choses. Après, voilà, il faut largement tempérer ce que je dis là, parce qu'on est quand même dans une période où la scène indé est incroyablement diverse, que ce soit dans les offres ou pas d'ailleurs. On a des exemples récents de succès complètement incroyables de jeux qui ne sont absolument pas sortis dans ces conditions-là. Je pense, tu sais, le roguelite français, là, j'ai oublié son nom.
Après, moi, je pensais à Among Us tout de suite. Non, mais pas
ça. C'est qu'il y en a plein. T'as Among Us, mais t'as aussi le Valheim.
Bien sûr, non.
T'as des trucs, Vampire sur Survivor. Et tous ces trucs-là, en fait, ils ont des succès. Et je pense que, alors, pour l'instant, on est dans une période où, de toute façon, soit ton jeu est dans le Game Pass, soit ton jeu réussit sans le Game Pass et finira dans le Game Pass. Parce que du coup, les PlayStation et tout, ils essayent d'avoir quand même les titres qui ont fini par fonctionner. Donc voilà. Mais en tout cas, effectivement, on est encore dans une période où ça se passe super bien, où il y a des jeux incroyables qui sortent. Mais, et aussi, il faut le dire, c'est qu'aujourd'hui, et ça je pense que Patrick l'a déjà répété assez souvent, mais c'est assez facile de faire un jeu. T'as pas une barrière à l'entrée qui est gigantesque. C'est pas comme faire une série pour Netflix où tu t'en sors avec une équipe de 5 personnes et 100 000 euros de budget. Enfin, tu vois, c'est la barrière à l'entrée est quand même très basse, ce qui permet à beaucoup de gens d'arriver et d'être en compétition. Mais effectivement, je pense que plus les gens vont être accoutumés à avoir les abonnements, surtout que maintenant, alors quand il y avait que le Game Pass, t'avais encore un peu d'argent pour acheter à côté, mais quand les gens vont commencer à être abonnés à plusieurs trucs en même temps, et donc il va y avoir pas mal de jeux à se mettre sous la dent avant de commencer à regarder ce qu'il y a en dehors des trucs qu'ils ont déjà payés, en fait, tout simplement.
Et alors, je vais insister sur un point, c'est le fait que, du coup, c'est le consommateur qui... Parce que je crois qu'on ne l'a pas trop dit, c'est quand même le consommateur qui a un peu le choix, justement. Alors, c'est un peu facile de dire ça, comme si c'était l'individu qui avait tout le temps la main, surtout. Mais c'est à nous, chacun, en tant que consommateur, de justement pas trop... d'essayer de varier les trucs pour éviter qu'il y ait un système qui emporte sur les autres. Après, évidemment, je sais que ce n'est pas forcément ceux qui sont ni derrière les écouteurs, ni derrière le micro, qui seront dans ceux qui donneront tout leur pognon au Game Pass ou au PlayStation Plus sans plus rien acheter. Mais je pense que c'est vraiment une réalité. Enfin, c'est, pour moi, c'est une vraie réalité que si. Là, actuellement, on est vraiment dans le système. Pour moi, on est dans le système presque idéal où, justement, comme vous le dites, il y a des jeux qui peuvent trouver le succès en dehors du Game Pass. Dans le Game Pass, tu peux les trouver le succès en étant sur Switch, en étant sur Steam, en étant dans un service d'abonnement, sur une console ou une autre, en signant des exclus. Et on est un peu, pour moi, actuellement, on est vraiment dans un âge d'or où il n'y a pas vraiment de contrepoint, hormis toutes les questions de crunch et tout ça. Mais il n'y a pas, en termes de production de jeux vidéo et de financement du jeu vidéo. On est vraiment dans dans une grande diversité des modèles économiques, quoi.
Bah, puisque tu parles, alors je me permets de faire la transition vers la suite, sauf si Thomas, tu voulais rajouter quelque chose. Tu parles de l'impact sur les jeux. Tu parles de nouveaux modèles économiques. Et pour moi, qui dit nouveau modèle économique dit forcément. Une nouvelle façon de réfléchir à ces jeux, puisque ça, c'est assez logique finalement. Quand tu penses ton jeu, tu penses forcément dans le cadre qui va te permettre de rentabiliser. Et donc, est-ce que selon vous, je trouve qu'on ne l'a pas encore vu jusqu'ici, mais est-ce que selon vous, ces offres-là vont avoir tendance à s'impliquer, à avoir des conséquences carrément directement dans le game design ou dans la façon vraiment de réfléchir les jeux à leur tout début. Je sais pas, je posais la question à Thomas.
Forcément, là, il y a des choses qui sont déjà acquises. Je laisserai Cassim en parler. Il y en a qu'on peut plutôt classer dans ce qui est possible ou probable ou des choses qu'on peut attendre et aussi potentiellement des choses qu'on attend parce que on a vu un peu les comportements de Netflix sur d'autres sur leur manière de gérer justement leur catalogue à eux pour rendre justement l'abonnement toujours intéressant pour les abonnés et pour ceux qui ne le sont pas encore. On peut par exemple imaginer que les jeux vont commencer à intégrer plus de micro-paiements, parce que si tout à l'heure on parlait d'Outriders, peut-être que si Outriders avait eu plein de micro-paiements pour des cosmétiques ou des lootbox ou je sais pas quoi, avec des gemmes légendaires, n'importe quoi là, tout ça, peut-être qu'ils auraient gagné de l'argent, voilà. Peut-être qu'ils auraient gagné de l'argent si, vu que le Game Pass rapportait pas assez, et que les ventes non plus rapportaient pas assez, bien sûr, les microtransactions auraient permis de compenser. On peut peut-être imaginer que ils vont peut-être pas faire des jeux trop longs, parce que si on commence à consommer des trucs rapidement, un jeu de 40 heures, c'est peut-être trop long, et 40 heures ou plus d'ailleurs. On peut imaginer plein de choses sur le développement des jeux. Pardon. Ouais, vas-y, pardon, il faut que je tousse.
Non, t'inquiète, en plus je parlais avec le micro muté, donc comme quoi, voilà. Donc je disais que là, pour le coup, je vais prendre le contre-pied de ce que tu dis. Je suis pas du tout d'accord pour. Enfin, effectivement, instinctivement, c'est des choses auxquelles on peut penser, mais moi, là, j'y crois pas du tout, pour le coup. C'est un peu facile de se dire ouais voilà ça va être la porte ouverte parce que de toute façon en plus c'est un peu le truc négatif auquel on pense en premier, c'est ça va être la porte ouverte aux microtransactions aussi parce que et là je vais aller dans ton sens, c'est parce que pour les free to play et quelque part un jeu qui est dans le Game Pass comme on le paye pas et qu'on y accède, est-ce que c'est fait finalement une sorte de forme de free to play un peu déguisée, du coup est-ce que le freemium va pas se démocratiser sur le Game Pass, peut-être. Mais moi, j'y crois pas pour la bonne et simple raison il y a des jeux longs sur le Game Pass qui cartonnent. Je pense à Crusader Kings, par exemple. C'est des jeux sur lesquels tu vas vraiment passer des dizaines et des dizaines d'heures. Et pour moi, il y a un vrai intérêt, même pour le développeur, à être sur ce genre de service, déjà pour faire découvrir le jeu, en particulier quand c'est des jeux de niche un peu ou qui peuvent effrayer justement parce qu'ils sont trop longs, comme Crusader Kings. Et alors là, je dirais que c'est au développeur de bien négocier son contrat pour justement peut-être prendre en compte le fait que des gens vont passer du temps dessus et qu'il y ait une rémunération derrière un peu en fonction de la durée de gameplay des gens. J'espère que justement les centaines d'heures que j'ai passées sur Crusader Kings que j'ai découvert justement grâce au Game Pass, derrière il y a une rémunération en conséquence, c'est pas juste un one shot quoi. Mais et puis je pense que aussi que il y a une place en particulier, je pense aux jeux internes de Microsoft, mais pas que, qui a une place justement pour les jeux pas service, et que au contraire on prenait la direction avant l'arrivée des services comme le Game Pass, on prenait vachement la direction des jeux service. On n'a pas inventé le jeu service avec le Game Pass. Et qu'au contraire, justement, c'est le Game Pass permet, je trouve, j'espère en tout cas, va permettre de moins se soucier de transformer tous tes jeux en jeux service, justement parce que c'est le Game Pass, le service en lui-même, et que ton jeu peut être un standalone. Tu peux faire des campagnes solo, en gros. Et je vois bien, par exemple, des jeux épisodiques ou des jeux un peu à fort côté narratif, quoi, un peu les jeux type... les Until Dawn, justement, alors c'est mauvaise pioche chez côté PlayStation, hein, mais vous voyez l'idée. Les jeux très Walking Dead et compagnie, les jeux narratifs, je les vois bien être des bons clients pour le Game Pass, surtout si du coup, avec le bouche à oreille, les gens téléchargent, les gens accrochent parce qu'il y a un bon scénario. Et en plus, pour l'épisodique, si tu peux revenir mois après mois, ça fait, tu vois, tu restes abonné. Il y a ce côté-là qui peut être très appétant aussi pour Microsoft. Donc, pour toutes ces raisons, je pense qu'en fait, il n'y a pas. Il n'y a pas un seul mode. Enfin, disons qu'on va pas avoir. Je pense pas que les jeux vont tous devenir un peu des clones de modèle économique.
Il y a toujours, bien sûr, t'auras toujours des exceptions. Et puis, pour l'instant, Xbox, il tape large. Hein, donc,
pour moi, ils font
un peu de tout. Après, tu vois, alors, il me semble. Alors, j'avais noté la citation, mais je sais plus d'où elle vient. Il me semble que ça vient encore de Game Bakers. Mais qui mentionnait que, par exemple, il y a des développeurs indés qui se voient refuser le Game Pass parce que le format de leur jeu ne colle pas à ce que désire Xbox. Alors, derrière ça, peut-être que c'était une façon polie de dire qu'ils trouvaient leur truc nul, ou alors peut-être que vraiment ils disent ah bah tiens, c'est un jeu qui ressemble à ça, on en a déjà, on en a pas besoin, ils nous font un truc qui ressemble plutôt à ceci parce que bah ça va augmenter l'éventail de notre portefeuille. Mais donc tu peux imaginer que, et encore je reviens sur cette hypothèse de tout à l'heure de si le Game Pass devient trop important et qu'il devient, enfin pas trop important, qu'il devient très important et qu'il fait un peu la loi au niveau de qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas marcher sur Xbox, tu peux imaginer, alors, je sais pas si ça va arriver, je pense que ça arrive, mais j'ai pas encore les démonstrations, on aura peut-être des articles dans les mois, les années à venir, mais tu peux imaginer un développeur qui dit ah bah tiens, il va me falloir un truc designé pour le Game Pass. Je sais pas c'est quoi les designs encore, j'ai pas de vraie réponse là tout de suite, mais tu peux imaginer que ça, d'ailleurs je me souviens d'ailleurs que dans l'article le journaliste balançait en plein milieu, c'était marrant, si vous êtes un développeur qui a changé de design, de marketing, de trucs machin pour coller au Game Pass ou au PlayStation Plus, écrivez-moi. il lançait un appel comme ça quoi. Donc voilà, simplement.
Ouais, alors du coup, juste pour revenir sur cette idée justement de business model et de d'implication que ça peut avoir sur le design, le game design du jeu, c'est que comme ce qu'on disait tout à l'heure en début d'émission, c'est qu'il n'y a pas une monétisation unique en fait dans le Game Pass. Il y a plusieurs types de contrats. Et je trouve que c'est peut-être ça qui fait que pour le moment, on ne décèle aucune, en fait, quasiment aucune dérive en fait de ce côté-là. C'est que bah, du coup, peut-être que Microsoft a aujourd'hui l'intelligence de proposer des types de contrats qui sont en adéquation avec tel et tel jeu. Je sais pas s'ils viennent acheter un jeu service, ils vont eux-mêmes proposer un contrat qui est tailor-made, je sais pas comment on dit ça, fait sur mesure pour tel développeur. Donc on a l'expression qu'il y a autant de contrats Game Pass que de développeurs, et je pense que ça aide à pour le moment préserver justement un peu ce côté-là. Mais aujourd'hui, on a un Microsoft qui est dans une une stratégie de conquête du marché, comme Sony, hein, je veux pas dire que Microsoft est plus prédateur que d'autres, mais du coup, ils sont dans une situation où ils se mettent en concurrence et où ils essayent aussi d'attirer des jeux un peu uniques et chacun de leur côté, etc. Mais après, il faut aussi s'imaginer que potentiellement, si pour une raison X ou Y, il y en a un qui bascule dans une situation plutôt de domination et que du coup les contrats sont un peu plus normalisés, je pense que c'est que sur ces conditions-là qu'on pourra commencer vraiment à voir du coup des gens qui font des jeux vraiment faits pour gagner de l'argent sur Game Pass, comme on voit des gens faire des vidéos YouTube pour coller à l'algorithme qui est le même pour tous, etc. Ouais. Mais du coup, pour l'instant, c'est pas le cas et j'espère qu'on n'aura jamais de jeu avec des thumbnails de YouTubeurs. Joue à mon jeu et tu verras ce qui se passe à la minute.
Voilà. Ouais, ça semble extrême, oui, mais.
En parlant de ça, justement, en plus Thomas me lançait un peu dessus tout à l'heure, il y a une modification de game design duquel on a eu écho déjà dans des interviews, pour le coup, c'est l'expérience d'onboarding, comme ils disent sur LinkedIn, c'est-à-dire les 30 premières minutes que tu passes sur un jeu, comment tu es accueilli, est-ce qu'il y a un tuto, est-ce que le jeu... par exemple, si on parle d'une suite qui arrive directement dans le Game Pass, je pense notamment, c'était le cas pour Psychonauts 2, qui est arrivé très longtemps après le premier épisode. Ils ont dû réfléchir à mettre un résumé du premier jeu au début de Psychonauts 2 pour essayer d'un peu faire un récap des événements précédents. Parce que forcément, en arrivant dans le Game Pass, tu t'ouvres à un public qui est beaucoup plus large que ton jeu de base. C'est un peu le principe quand même. Et donc tout ça doit amener à des réflexions. Et il y a des développeurs du coup qui ont déjà commencé un peu à modifier, d'après des retours qu'ils avaient en interne, les éléments de tuto en gros et de première expérience, parce qu'il faut, il y a deux clés quoi. Il y a le fait d'abord que il faut pas perdre les gens quand ils découvrent ton jeu, surtout s'ils n'ont pas joué aux épisodes précédents ou qu'ils sont pas habitués au genre et que justement le Game Pass leur permet de découvrir un genre. Par exemple moi avec Crusader Kings. Et la deuxième clé, c'est il faut capter l'attention. Là, c'est ce que disait Johan à l'instant avec sa thumbnail YouTube. Il faut capter l'attention du joueur et il faut le rendre addict dans les premières minutes du jeu. Du coup, on serait pas surpris. Et ça marche. Après, ce que je dis, c'est un peu vrai pour n'importe quel jeu vidéo, mais c'est, je pense, en particulier vrai pour un jeu auquel t'as pas payé pour accéder. Et ce sera très vrai, je pense, pour PlayStation. Peut-être encore plus vrai chez PlayStation que chez Xbox, c'est qu'il va falloir un pré-générique qui tabasse quoi, qui te met vraiment dans l'ambiance et tout ça pour ton jeu. Et je pense à PlayStation parce que eux, ils ont un système de démo dans le PlayStation Plus Premium où ils vont peut-être commencer à réfléchir des fois. Enfin, c'est une évolution, j'imagine, qu'on peut
intuiter. Que ce soit les démos du PlayStation Plus Premium ou même le Game Pass ou même pour moi c'est pareil, c'est-à-dire que moi vu comme j'ai décrit comment j'utilisais le Game Pass, j'utilise pas plus que les démos accessibles au PlayStation.
Oui, mais ce que je veux dire c'est que
et du coup effectivement on quitte l'idée d'un jeu que tu vas payer j'allais dire 60 mais maintenant c'est 80 et où du coup t'es prisonnier avec ton jeu après quoi, tu l'as payé, il faut que tu te lances dedans, alors peut-être que ça te plaira pas les 5 premières minutes mais tu vas persévérer et ça tu perds complètement ça avec le Game Pass. Aujourd'hui on est dans un fonctionnement hybride où quand même en général la plupart des développeurs en tout cas AAA même AA ont quand même l'espoir de faire des bonnes ventes et du coup je pense pas que les designs de AAA se font en disant ok, alors à part chez Microsoft, mais ok, on va être dans le Game Pass, il faut que les 3 minutes tu vois tabasse machin, il y a pas encore cette façon de réfléchir.
La crainte je la portais plus sur PlayStation parce que justement c'est une démo qui est très restreinte et qui te demande d'acheter après. Et du coup, faudrait pas. Et je pense à Cyberpunk, par exemple, qui est coupable clairement de ça. Bon, il n'a pas été pensé pour le PlayStation Plus du tout. Mais en l'occurrence, Cyberpunk, le début du jeu est une bien meilleure expérience que le reste du jeu. Et du coup, le risque, c'est d'avoir des jeux comme ça dans le PlayStation Plus Premium où les 30 premières minutes sont géniales, ou les X 15 premières minutes, 20 premières minutes, j'en sais rien, de la démo. Et t'arrives à la fin de la démo et maintenant faut payer 80€ et en fait le reste du jeu, je dis pas que genre on arrive derrière le panneau et d'un coup il y a un désert et c'est tout pourri, mais faut qu'il fasse gaffe, enfin voilà, faut pas une dérive où le début du jeu est bien meilleur que le reste. Et je pense que le PlayStation Plus pourrait en être davantage coupable à cause de ce système là.
Ouais. Après c'est pas négatif comme évolution de design, tu peux te dire si les jeux accrochent plus les gens au début, enfin je veux dire
ça dépend comment c'est fait quoi, mais tu vois, faut pas que ce soit mensonger.
Oui, c'est ça, il faut pas que ce soit du bien sûr, mais il me semble que c'est assez notoire que en général les débuts de jeu sont faits à la fin du développement parce qu'il faut vraiment que tu polish à fond ton intro, etc. C'était déjà une préoccupation, mais effectivement ça va devenir plus qu'une préoccupation, ça va devenir impératif si d'un point de vue business tu crées un produit pour ces plateformes là et que il faut que les joueurs, il faut que tu accroches les joueurs pour gagner de l'argent, effectivement il va falloir mettre le paquet là dessus quoi.
Pour moi, tu touches du doigt ma conclusion, donc ça je vais l'évoquer maintenant sur le fait que en fait tout ce qu'on dit à chaque fois, les modifications de game design, les modifications sur l'industrie, les modifications pour les développeurs indépendants et tout, en fait, c'est des choses, même sans le Game Pass, j'avais un chat dans la gorge, même sans le Game Pass, c'est des choses qui existent déjà. Tu viens de le dire, par exemple, le fait d'essayer de travailler le début de ton jeu pour qu'il soit peaufiné, pour laisser accrocher les gens, c'est des choses qui existaient déjà. Et donc, en fait, ma conclusion en l'état aujourd'hui, c'est en fait finalement le Game Pass, il change pas les choses. Avec ou sans Game Pass, la situation est la même. Les développeurs veulent gagner de l'argent, ils veulent mettre des prix microtransactions dans leur jeu pour gagner encore plus d'argent que ce qu'ils en gagnent juste avec la vente du jeu. Toutes ces mécaniques-là, en fait, on les retrouve. Il n'y a pas besoin du Game Pass pour les inventer. Cela dit, là encore une fois, comme Thomas l'a beaucoup répété, évidemment, c'est dans 5-10 ans, si le Game Pass devient super puissant et que tout passe par le Game Pass, là, on peut quand même se demander s'il y a des modifications. Et tant que les modèles économiques sont variés, tant qu'on est dans une époque où tout va bien, c'est cool. La question, c'est dans 5-10 ans, si les autres modèles se cassent la gueule, quoi.
Moi, c'est une conclusion que je partage. Je reste gêné. Tous les problèmes que moi j'ai annoncé dans ma façon de consommer, donc tout ça va me poser problème et me rendre triste si ça devient vraiment le vecteur principal de jeu, parce que j'affectionne limite encore mes jeux en boîte dans ma bibliothèque et comme j'ai vu disparaître les CD, les DVD, je suis pas forcément ravi. Après, les CD, on parlait de la musique. Maintenant, il y a des vinyles de partout, ça revient en force. Donc voilà, je perds pas espoir. Donc tu vois, c'est pas forcément une fin en soi. Donc et comme je partage ce que tu dis sur la partie game design, pour le moment, je pense qu'il y a pas de grosses raisons d'être inquiet. Il faut juste être vigilant. Je sais pas. Moi, je suis plutôt vigilant là-dessus parce que ça m'intéresse de voir justement. Comment est-ce qu'on fait un jeu et est-ce que le nouvel environnement va changer les comportements des créateurs. J'ai pas l'impression qu'on ait vraiment vu quelque chose de significatif là-dessus quoi.
C'est encore tôt quand même. Bon, tu sais que les développements qui sont longs, enfin ça prend 3, 4, 5 ans. Game Pass, il a cet âge-là, mais il devient important de plus en plus. On l'a déjà dit plein de fois, mais ça arrivera dans les années à venir. Après, moi, pour ma conclusion, finalement, ce sera pas. Je vais revenir en mode Doombringer comme d'hab là. Là où tu parlais, Johan, juste avant, du fait d'acheter les jeux et tout, je voudrais rappeler quand même, parce qu'on a beaucoup parlé du Game Pass ce soir, mais bon, c'est normal, c'est le mastodonte, hein, c'est l'éléphant au milieu de la pièce. Sony, ils se sont pas calés sur le Game Pass, leur first party, sont toujours des choses qu'on doit payer. Alors certes, ils ont l'air d'arriver après dans leur abonnement, mais bon, la sortie, c'est quand même là où se fait l'essentiel des ventes en général. En général, hein, y a toujours des exceptions. Et ben là, on est encore dans le modèle premium d'ailleurs. Selon Sony, après qu'est-ce qui est marketing ici, qu'est-ce qui est vrai, je sais pas, chacun fera son idée, mais selon eux c'est pas viable de proposer ces jeux gratuits en fait dans son offre d'abonnement. Eux ils vont rester sur ce modèle complètement premium, voilà. Et donc si moi j'ai toujours un peu cette crainte finalement, bah, côté Game Pass en fait. J'essaye de le formuler, pardon. Côté Game Pass, un peu, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, pour moi, il y a deux étapes. Aujourd'hui, le Game Pass et Microsoft, comme on l'a dit, ils arrosent d'argent beaucoup de gens, de tout genre, de tout niveau, des AAA, des AA, des indés, du japonais, de tout ça. Et vraiment, ils mettent à fond de chéquier. Par exemple, là, Persona 5 arrive sur les consoles. Direct Microsoft, nous, on vous l'achète, on le met dans le Game Pass. Et on vous le met dans le Game Pass et on vous met aussi tous les DLC qui servent à rien et tout ça. Enfin, tu vois, ils sont vraiment en bling-bling. Ma première étape, ça va être quid de quand les first parties de Microsoft qui vont arriver vont arriver en fait. Qu'est-ce qui va se passer quand ils auront plus besoin de tous les tiers, ou peut-être pas plus besoin de tous, mais ils en auront beaucoup moins besoin. Qu'est-ce qui va se passer, comment est-ce qu'ils vont continuer d'arroser autant d'argent et tout ça. Et mon deuxième point, ça va être un petit peu, je vais revenir sur le comparo avec Netflix. Netflix par exemple, il y a pas longtemps, ils sont arrivés un petit peu à un plafond de verre. Les abonnements ont stagné, ils ont même chuté. Et à partir de ce moment-là, Netflix, ils ont coupé plein de ponts. Ils ont dit, ok, parce que pendant Netflix, vous savez, ils invitaient des gros réalisateurs, là, des Scorsese, des je sais pas quoi, je les connais pas en vrai, mais ils leur donnaient carte blanche. Ils disaient, faites ce que vous voulez, ici vous êtes à peu près libre, voilà. C'était de l'image. Ils avaient besoin, ils disent, bah nous, on a le dernier film de machin, on a la série de trucs. Ils ont fait ce qu'ils voulaient, voilà. C'est pas forcément ce qu'ils vendaient le plus, mais c'était une grosse image. Ça, ils l'ont coupé. Voilà. Ils l'ont coupé, ils ont dit on arrête de le faire. À partir du moment où ça a commencé à décliner. Pareil, ils ont fermé plein de studios d'animation. Ils ont commencé à un peu à couper l'équivalent de l'arrosage de pognon qu'ils faisaient eux aussi. Donc qu'est-ce qui va se passer quand un jour ou l'autre le Game Pass va aussi péricliter, qu'est-ce qui va se passer quand ils attendront eux aussi ce plafond de verre, voilà, parce que encore une fois leur modèle selon PlayStation il n'est pas viable. Et d'ailleurs il y a une phrase qui revient souvent et qui me titille un peu quand on dit que PlayStation ils n'ont pas les reins pour faire dans comme le Game Pass, comme Microsoft. Mais qu'est-ce que ça veut dire pas les reins, si ce n'est qu'ils n'ont pas l'argent. Mais s'ils n'ont pas l'argent, c'est que c'est pas rentable, a priori, parce que sinon, enfin bref, je vais pas aller plus loin parce que je sens que je vais m'embrouiller.
C'est clair, je pense que c'est assez clair. Non, pour le coup, c'était assez clair comme exemple. Si c'était quelque chose, si c'était une activité rentable, ils trouveraient l'argent, les financements pour se faire. Pour tout de suite financer le truc.
Ouais, voilà.
Puisque ça rapporte du pognon.
Oui. Voilà, j'ai fini, j'ai fait super long.
Effectivement, en fait, du coup, c'est vrai que c'est un truc qu'on avait prévu d'en parler un tout petit peu, c'est justement sur le fait que Netflix, je sais plus les chiffres, mais c'est vraiment délirant, ils investissaient de plus en plus chaque année, ils étaient à 17 milliards, 18 milliards, 20 milliards d'investissements d'année en année. Et effectivement, tout cet argent-là, alors tu te dis, ils s'endettent, donc ils sont pas forcément rentables, etc. Et quand tu investis autant d'argent, c'est forcément sur une perspective de croissance. Et quand la croissance d'abonnement n'est plus là, là, en tout cas, chez Netflix, c'était un peu la panique. Donc là, ils sont retombés en termes de valeur d'action, ils sont retombés au plus bas depuis plus de 5 ans. Du coup, enfin voilà, c'est reste à savoir côté Microsoft, est-ce que le parallèle se vaut ? C'est pas dit parce que déjà Microsoft ne communique pas spécialement énormément sur ses nombres d'abonnés. Ils vont peut-être finir par devoir le faire si ça devient vraiment important par rapport à tout Microsoft, il me semble. Hein. Ou alors maintenant que Xbox est dédié, je sais plus comment ça marche.
Ils l'ont fait dernière. Oui, vas-y, Yassine.
Ils ont aucune. Alors, la réponse courte, c'est qu'ils ont aucune obligation et qu'ils font ce qu'ils veulent. YOLO. La réponse longue, c'est que je suis quand même pas le seul journaliste à le penser. Que quand tu commences à acheter pour 80 milliards et que c'est ta plus grosse acquisition de ton histoire en tant qu'entreprise, tes investisseurs derrière, les actionnaires, ils vont commencer un peu à grincer des dents.
Demander, quoi.
Si tu leur donnes vraiment zéro chiffre sur les résultats de ta branche, quoi. Je pense qu'au bout d'un moment, ils vont d'eux-mêmes commencer à dévoiler un peu plus de trucs. Bon, ils bullshiteront peut-être encore un peu les chiffres en disant en donnant que des pourcentages de croissance.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que d'un point de vue Microsoft, la rentrée d'argent des abonnés Game Pass ne constitue pas l'essentiel de leurs revenus, quoi. C'est pas comme Netflix où dès que ça baisse, c'est immédiat, enfin la sanction est immédiate. Là, je pense pas qu'il y aurait ce type de réaction. Mais en tout cas, effectivement, on peut se poser la question. Et ça, je pense qu'on ne le sait pas. Hein, c'est est-ce que c'est rentable ce que fait Microsoft aujourd'hui, malgré leur part de marché Game Pass, etc. Moi, j'étais plutôt team pendant longtemps. Team, c'est vraiment, ils sont vraiment pas rentables. Ils sont en train de dépenser un pognon de fou furieux. D'une manière ou d'une autre, en disant de toute façon le cloud pour eux c'est gratuit, enfin ce genre de choses, parce qu'ils ont déjà toutes leurs infra à eux, mais de me dire qu'effectivement proposer une offre cloud, parce que c'est ça qui est assez fou avec le Game Pass par rapport aux autres offres, c'est que t'as le cloud quasiment gratuit avec ton Game Pass, quoi, et c'est des choses qui coûtent atrocement cher en termes d'infrastructure, en termes de bande passante, etc. Et donc du coup moi j'étais vraiment plutôt dans la team ils sont forcément pas rentables, ils sont en train de couler du pognon pour se positionner, et ils vont finir par brute forcer, par arriver de force, on va dire, pour s'imposer et finir par être rentables, et que lorsqu'ils seront rentables, ils seront beaucoup moins sympas. Mais l'inverse est vrai, peut-être que s'ils arrivent pas à être assez rentables, ils vont forcément essayer d'être moins sympas pour rattraper. Donc ça c'est un peu on essaie de deviner de loin, mais on n'a pas vraiment d'infos là-dessus, et ça
en plus, ça dépend. Ça dépend pour le coup. Ça dépend aussi de ce que tu rentres dans leur, de ce que tu fais rentrer dans leurs dépenses, parce que pour le coup, moi, je pense qu'il y aurait tout un débat à avoir sur le fait que est-ce que le Xbox Cloud Gaming, là, ce dont tu parles, l'offre de Cloud Gaming, est-ce que c'est une dépense du Game Pass? Moi, j'en suis pas totalement persuadé de le faire rentrer dans les dépenses du Game Pass. Pour moi, c'est une dépense. C'est comme le développement d'une nouvelle console de jeu. Ça coûte plein d'argent. Mais ça n'a pas de rapport. Tu vois, la Xbox Series X, elle a coûté de l'argent. Est-ce que tu le fais rentrer dans les investissements pour le Game Pass? Pas vraiment. Enfin, c'est un peu à côté. C'est la même chose pour. Est-ce que tu fais rentrer? En gros, ce que je veux dire, c'est pour estimer que le Game Pass est rentable, est-ce qu'il faut qu'il ait remboursé, par exemple, le coût de l'achat de Activision Blizzard ou de Bethesda? A priori, ça veut dire qu'il sera jamais rentable. Si tu estimes qu'il faut attendre que le Game Pass ait généré assez d'argent pour rembourser ça, il sera probablement jamais rentable.
Mais surtout de base, parce que quand t'achètes Activision Blizzard, admettons qu'il coûte 80 milliards, t'as toujours un truc qui coûte 80 milliards chez toi, donc ça a pas de sens d'essayer de rembourser un truc.
Bien sûr.
Non, mais c'est pour ça que, enfin, c'est quand je me pose la question de savoir si le Game Pass est rentable, je pense surtout au financement des jeux qui rentrent dans le catalogue, et de savoir si en mettant en corrélation les abonnés en face, en gros, est-ce que comment c'est possible que quand tu fais rentrer un jeu à 80 euros day one dans le Game Pass, alors que toi tu payes que 10 euros l'abonnement, j'arrondis, comment c'est possible que ça puisse être rentable pour Microsoft? Bon, évidemment, c'est avec le nombre d'abonnés, etc. Et évidemment, on n'a pas la réponse à la question, mais le calcul est assez complexe, et ça dépend après, de chaque côté, ce que tu fais rentrer et qu'est-ce que tu fais rentrer aussi dans les gains du Game Pass. C'est-à-dire que par exemple, si quelqu'un achète une Xbox parce qu'il veut être abonné au Game Pass et parce qu'il est attiré par le Game Pass, est-ce que c'est du coup, est-ce que ça rentre dans le plus, on va dire, du Game Pass? Là où si Microsoft n'avait jamais lancé cet abonnement, bah, peut-être que du coup, les gens, probablement, les gens auraient plutôt acheté des PlayStation. On sent bien quand même que le succès, la remontée des Xbox est liée à ça. Donc, c'est pas des questions dont j'ai forcément les réponses, mais ça fait, disons que le calcul du coût de rentabilité du Game Pass, il a autant de réponses que de personnes qui veulent faire le calcul. Et du coup, Microsoft peut dire un peu n'importe quoi aussi, et c'est là aussi la conclusion. Ils peuvent très bien dire que c'est rentable sans que ce le soit, ou durable sans que ce le soit. Et on peut pas vraiment aller vérifier. Et même si on pouvait vérifier, on aurait peut-être pas le même calcul qu'eux, quoi.
C'est certain. Eh ben, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Je sais pas si vous avez des choses à rajouter.
Et vivement les abonnements type My Canal Series, où quand tu t'abonnes pour 20€ par mois, tu as à la fois accès au PlayStation Plus, au Game Pass, à Stadia et tu vois un peu tout. Et que ce sera peut-être l'étape d'après, le Avengers de l'abonnement de jeux vidéo.
Là, je pense qu'effectivement, l'étape d'après, ça va être d'essayer de rendre disponibles ces trucs-là le plus partout possible. PlayStation est encore bien coincé sur sa console, même s'il y a une application PC, elle n'est pas incroyable. Et donc, il y a tout un développement et tout un... Voilà, on va suivre ça de toute façon. Donc ça va, j'espère que tout va s'améliorer, parce que pour le moment, c'est un peu route, surtout au niveau PlayStation, je trouve. Mais voilà, écoute, merci Thomas, merci Kassim.
Merci à toi de cette superbe présentation.
J'ai fait de mon mieux. Du coup, on va rentrer un peu dans le rituel de sortie. Mais avant, je voulais qu'on remercie Patrick de nous avoir accordé l'espace pour faire cette émission. On lui souhaite d'excellentes vacances. Moi, je vous recommanderais jamais assez de soutenir autant que vous pouvez la création sur Internet. Et donc la façon la plus facile de le faire, c'est de mettre des super notes sur iTunes, sur Apple Podcasts, et de parler des émissions et notamment celle de Patrick autour de vous. Et la deuxième façon la plus facile, c'est de vous rendre sur le Patreon du Rendez-vous Tech ou du Rendez-vous Jeu, et de donner 1 ou 2 euros ou ce que c'est. Je crois que c'est la formule consacrée. on poursuit les rituels. Kassim, où est-ce qu'on peut te retrouver?
Ouais, j'irais même au-delà. Patrick fait souvent la comparaison avec le croissant ou le café, mais avec l'inflation, le croissant ou le café augmente, alors que l'abonnement à Patreon, il reste le même.
C'est vrai.
donc voilà, raison de plus pour s'abonner à Patreon. tu me demandais où on peut me retrouver, c'est ça?
Tout à fait.
On peut me retrouver sur Twitter, @notkassim, @notc2sim, et puis sur le Discord, évidemment, de Patrick. Et puis, je voulais aussi dire merci à Patrick. Et en plus, pendant que tu le mentionnais, j'ai pensé au fait que j'ai oublié de lui demander les jingles et toutes les animations d'épisodes.
Oh mince!
Voilà, tous ceux qui n'aiment pas les jingles ont poussé un cri de joie. Et Toto, j'ai utilisé ton pseudo alors qu'on a dit Thomas tout le long, mais Thomas, où est-ce qu'on peut te retrouver de ton côté?
Eh bien voilà, sur Twitter aussi, malgré une activité très très pauvre, donc @TOOTOW, et sinon sur le Discord de Patrick avec vous tous. Et donc, merci Patrick, comme vous l'avez dit.
Et donc moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter à @yohant_ et c'est la première fois que je peux le dire, vous pouvez aussi me retrouver sur le podcast Super Laser Punch, où on parle des séries principalement du MCU, mais parfois d'autres choses. Et là, j'ai très très hâte de parler de la fin de Miss Marvel. Ça va être bientôt, je suis très content.
Donc, je te casse ta conclusion. Un podcast d'ailleurs complètement tourné, du coup, comme vous parlez surtout du MCU, vous êtes complètement tourné vers Disney+, et donc vers l'abonnement, donc c'est complètement raccord avec le sujet de l'épisode, donc c'est parfait.
C'est ma façon de rentabiliser mon abonnement Disney+, c'est que je fais un podcast, voilà.
Voilà, très bien.
Et bien, merci à tous, ciao tout le monde.
Ciao.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.